Le Salon Rent.
Les 5 et 6 novembre 2025.
À Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement,
Nexity,
Adaptimo
et Procivis.
Sur Radio Imo.
On continue notre deuxième journée ici au Salon Rent Porte de Versailles avec de nombreuses interviews que vous pouvez toujours retrouver sur le site et sur l'application de Radio Imo. Bienvenue à tous et à toutes sur Radio Imo. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour monsieur.
Bonjour Grégoire.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur délégué de Maslow Imo, une entreprise qui se positionne sur l'investissement immobilier locatif connecté. Merci beaucoup d'être là. On va parler d'abord de ce projet peut-être et de votre rôle. Pourriez-vous nous rappeler la genèse de Maslow Imo et pourquoi ce projet, quelle a été son ambition et quel rôle vous y assumez en tant que directeur délégué?
Oui, bien sûr, merci pour l'invitation. Effectivement, Maslow.imo, c'est une solution digitale qui permet à chaque investisseur de pouvoir réserver, sélectionner, financer, gérer son bien à distance. Donc une solution 100% digitale, mais en pouvant être accompagné par des conseillers en gestion patrimoine salariés et diplômés. En fait, Maslow fait partie d'un écosystème et d'un groupe qui s'appelle Valority, qui gère aujourd'hui 4 milliards d'actifs sous gestion. On a 25 000 clients, 20 000 lots en gestion locative. Et en fait, on a plusieurs possibilité de distribuer aussi nos produits. Donc on a des collaborateurs en B2C physique, en B2B, et donc une vitrine digitale. Pourquoi ? Parce que le virage était incontournable à prendre pour le groupe, évidemment, qui existe depuis 40 ans. Donc nos clients il fallait rajeunir la clientèle. Et aujourd'hui, les clients qui ont moins de 35 ans, moins de 40 ans, ils sont d'abord sur Internet. Il fallait proposer cette solution.
Alors justement, vous affichez un positionnement qui est un investissement libre, connecté et accessible. Oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un investisseur aujourd'hui ?
Libre parce qu'on est en architecture ouverte. Donc c'est la possibilité aujourd'hui de toucher et de pouvoir proposer en toute liberté l'offre du marché. Donc on a un positionnement aujourd'hui sur le neuf et sur ce qu'on appelle l'ancien récent. Donc nous, on n'est pas allé sur le créneau de la rénovation énergétique. Il est difficile pour nous d'industrialiser la rénovation en diffus d'un appartement à Strasbourg en changeant son DPE, en le rénovant et en étant certain de la solution et de la promesse. Nous, on est en capacité de brancher des tuyaux auprès de promoteurs, d'avoir des lots également en transaction sur lesquels on va connaître aujourd'hui l'historique de ce lot-là. Parce que si je le gère depuis 15 ans, je suis capable de vous dire il a été loué 14 ans et 9 mois, voilà l'évolution du loyer, voilà l'état réel du logement et voilà son DPE au départ. Donc c'est des lots qu'on connaît. Et puis après, c'est d'accompagner nos clients dans leurs objectifs de vie tout simplement pour que ça puisse fonctionner. Donc libre parce que architecture ouverte, accessible parce que nos clients sont généralement des primo-investisseurs, donc des jeunes. La moyenne d'âge chez Maslow, c'est 33 ans.
Okay.
Je fais 25% de mes ventes hors du territoire métropolitain, donc les dom-toms et les expats.
D'accord.
Voilà, sont des gens qui n'ont accès au marché français que par Internet.
Ouais, c'est vrai.
Donc il faut une solution digitale.
Et transparente.
Voilà, et primo-investisseur égale aussi budget limité. Les budgets, ils ont changé. Donc aujourd'hui, on sait que mon budget, il est inférieur à 200 000 euros. C'est pour ça qu'on parle aussi de budget accessible. Et ma moyenne de vente, elle est plutôt aux alentours de 130-140 000 euros.
D'accord. Si on discute de tendances et de digitalisation de l'investissement locatif, c'est un marché qui traverse de nombreux défis, que ce soit la fiscalité, le rendement, la gestion, la digitalisation. Depuis votre observation chez Maslow Imo, quelles sont les grandes tendances justement que vous observez pour 2025?
Les grandes tendances, c'est que les prospects arrivent très informés. En fait, nous, aujourd'hui, notre canal d'acquisition, il est par la production de contenu et ce qu'on est capable de faire. Donc, on fait beaucoup d'études de marché, on fait beaucoup de relations presse également. On a un podcast, une chaîne YouTube qui s'appelle 41 mètres carrés. Pourquoi 41 mètres carrés? Parce que c'est la moyenne des mètres carrés achetés par les investisseurs. Donc, on essaie de trouver des petits tips comme ça. Et en fait, les gens nous découvrent sur ces plateformes où on fait venir des experts. Quand je parle de fiscalité internationale, je fais venir un avocat fiscaliste. Quand je parle de je fais venir des notaires, je fais venir des gens qui maîtrisent le sujet. Et moi, mes collaborateurs sont conseillers en gestion patrimoine, ils sont diplômés CIF, ils ont de l'expérience, ils sont salariés. Donc l'idée, c'est toujours d'apporter une valeur ajoutée sur le conseil parce qu'ils arrivent avec beaucoup de sources d'informations. Et puis finalement, on trouve tout et son contraire.
Ouais, c'est vrai.
Vous parliez de fiscalité, il suffit, si on ne regarde pas la date de la vidéo qu'on est en train de regarder sur Instagram ou sur YouTube, elle est périmée.
Ouais.
Et donc nous, on a besoin de faire un petit peu le tri et le ménage comme ça pour que tout simplement les futurs clients y voient très clair. Donc ils sont très informés et ils ont besoin aussi qu'on leur apporte la preuve et qu'on leur apporte de la data.
C'est une tendance nouvelle qu'ils soient très informés comme ça ?
En tous les cas, la jeune génération, son canal d'accès, c'est Internet. Ouais. Oui, bah déjà, ils sont, je trouve, plus éduqués, plus intéressés. Enfin, je veux dire, moi, ils ont 30 ans, ils me parlent de retraite. Enfin, ils sont pas en train de regarder.
Ah, ça, on est obligé de se prendre en main là-dessus. Hein.
Ouais, ils sont pas en train de regarder Public Sénat pour savoir si on va nous augmenter l'âge. Non, ils disent, nous, c'est mort, on n'aura pas de retraite, il faut qu'on la prépare, il faut qu'on se prenne en main. Voilà, ils ont plus des réflexions qui sont plus étonnantes sur la résidence principale. C'est-à-dire le projet, quand on interroge des Français, leur premier objectif, c'est d'acheter leur résidence principale. Quand on segmente et qu'on regarde les catégories d'âge, bah, si par exemple je travaille à Paris aujourd'hui, que j'ai 30 ans, et bien j'imagine ma carrière professionnelle peut-être aujourd'hui à Paris, demain à Bordeaux, après-demain à Bruxelles ou à Londres. Et donc finalement se pose la question du moment où on rentre sur le marché de l'immobilier sur sa résidence principale. Mais l'investissement, que ce soit dans les cryptos, dans les placements financiers ou l'immobilier, ils se posent la question de plus en plus tôt et ils recherchent sur Internet le meilleur interlocuteur pour les accompagner. Et c'est ce qu'on essaie de faire.
Alors vous avez aussi parlé d'un score Maslow, d'une approche data-driven. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et comment est-ce que ça aide l'investisseur ou le gestionnaire aussi?
Oui, en fait, l'investissement locatif, pour qu'il soit réussi, il faut respecter des fondamentaux. Ouais. Et donc on essaie d'apporter par ce score ces fondamentaux-là. Donc les fondamentaux, c'est une tension locative. Donc c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on va absorber de la data chez LocService, qui est la seule data que l'on a qui va déterminer une tension locative en fonction de la surface. C'est-à-dire, autant, je vais peut-être pouvoir vous dire que sur Mulhouse, les T1, la tension locative, elle est pas mal. Sur les plus grandes surfaces, j'aurais du mal à vous conseiller. Alors, généralement, on parle de tension locative dans une ville. D'accord ? Il y a même des tensions locatives dans des villes qui sont catastrophiques. Et peut-être que sur certaines surfaces, ça peut être intéressant. On va regarder la profondeur de marché, c'est-à-dire le nombre de transactions qui sont réalisées chaque année. Donc, on aspire là de la data chez Priceable, avec évidemment les DPE. Aujourd'hui, les transports, les commerces, les projets urbains qui vont citer. Et donc, on va avoir comme ça 20 data que l'on a transformé en notes, en score, une note sur 5. Cette note sur 5, c'est un peu pour copier, évidemment, TripAdvisor, tout ce qu'on connaît, les 5 étoiles, etc. Pour dire, bah, moi, j'ai accès à tout le marché. Et donc, tout ce qui ne passe pas 3 sur 5 ou 3,5 sur 5, c'est pas présent sur mon site. Donc, si c'est présent sur le site, ça veut dire que ça respecte déjà des fondamentaux. Après, on va parler de tes projets, après, on va parler de ton budget, mais sache que déjà, ces fondamentaux-là sont respectés sur la tension locative, sur le prix, sur la profondeur de marché, sur les services, les commerces, les transports.
Alors, si on discute de fiscalité, de rendement, d'arbitrage, parce que ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup les auditeurs, notamment la fiscalité de l'investissement locatif, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Vous accompagnez des clients qui investissent en LMNP ou SCI. Quels sont aujourd'hui les principaux arbitrages à connaître ?
Oui, aujourd'hui, déjà, c'est l'arbitrage entre le nu et le meublé, qui est quand même systématique ou quasi. Aujourd'hui, moi, mes investisseurs, primo-investisseurs, ils vont à un budget qui est concentré, plutôt aux alentours de 150 000 euros. Donc, ça va permettre d'aller chercher sur des marchés dynamiques des petites surfaces.
Okay.
Donc, de toute façon, sur les petites surfaces, on va avoir plus de loyers en meublé qu'en nu. Donc, ça, c'est quand même une certitude. Donc, la fiscalité, ensuite, c'est de se dire, attention, le meublé, ça a aussi changé. Donc, est-ce que je vais faire de l'immobilier géré ? Est-ce que je vais faire de l'immobilier non géré ? Donc, par exemple, pour les expats, qui vont souvent mettre beaucoup de cash dans les opérations parce que d'une part les banques leur demandent ou parce qu'ils vont placer leur argent en euros. Faut pas oublier. Enfin, je veux dire, nous, on est dans notre microsphère française, mais vous n'imaginez pas les taux d'emprunt de nos amis anglais, de nos amis américains aussi, ou quand on est payé dans une autre monnaie que l'euro, on a envie de placer son argent en euros. Ça, c'est une réalité.
Okay.
Et donc, ils vont mettre
c'est
du cash.
Sûr.
Oui, c'est un coffre-fort, l'euro. C'est une monnaie solide, la volatilité. Enfin, il y a juste à regarder la parité euro-dollar depuis le début, depuis que notre ami Donald est revenu. Donc, ça veut dire que je vais placer mon argent en euros. Donc, ils arrivent avec beaucoup de cash. Donc, là aussi, conseil fiscal à apporter. Donc, on va orienter là ses clients en disant, la location meublée, ça assure une certaine rentabilité. Sur la fiscalité, par exemple sur l'immobilier géré, si on va sur les résidences étudiantes, par exemple, petit budget, j'ai un avantage fiscal à l'entrée sur la TVA, j'ai un avantage pendant, je ne vais pas payer d'impôts sur les loyers, c'est pas mal vu que c'est pas la peine que tu payes des loyers en France si tu es imposé ailleurs. Et puis tu n'auras pas de fiscalité à la sortie sur la réintégration des amortissements. Donc ces arbitrages-là, ils se font nus, meublés, gérés. Voilà, c'est là où le conseil fiscal peut être ça. Et puis surtout aussi sur l'horizon d'investissement, c'est toujours ça qui est important. Et puis neuf anciens. Aussi, qui est souvent le débat avec nos candidats investisseurs.
Alors il y a un débat qui existe assez souvent, acheter pour louer ou acheter pour valoriser. Vous donneriez quel conseil, vous, à un investisseur débutant ?
Les deux, mon capitaine. non, après, c'est aussi son inversion. Si vous aimez mieux aujourd'hui, il faut se rendre compte que Il y a toujours un couple rendement risque. Et celui qui, ici, vous dira le contraire, ce n'est pas vrai. Donc, si on prend un risque, il faut qu'il soit mesuré. Par exemple, effectivement, obtenir du rendement, ça peut être d'acheter un logement dégradé parce que je maîtrise la capacité de faire des travaux, je maîtrise la capacité d'augmenter la valeur de mon bien. Donc ça, c'est bien si peut-être dans mon entourage personnel ou si moi, dans mon job, je suis capable de faire ça. Si c'est pour habiter à 500 km de ce projet de rénovation-là, en ayant des difficultés pour le suivre, ou parce que la valeur ajoutée elle est absorbée par le nombre d'interlocuteurs ou d'honoraires que je vais payer entre les deux, ça ne marchera pas. D'accord ? Ensuite, il y a les bons fondamentaux, c'est-à-dire que quel risque on prend aujourd'hui d'investir dans une ville, une agglomération qui fait plus de 100 000 habitants, qui est en zone tendue, sur laquelle vous choisissez votre locataire, votre rendement, il est certain, vous faites travailler l'argent de la banque, ça peut être un bon premier investissement. Et après, un portefeuille immobilier, en fonction de ses moyens, de sa capacité à s'endetter, bah, ça peut être diversifié. Mais c'est sûr que si tu as ton premier CDI en février, me dis pas je vais acheter un immeuble de rapport à Roanne pour faire 10% de rendement. C'est pas le bon premier projet. Non. Je dis pas que c'est pas un bon projet, je dis juste que c'est pas le bon premier projet.
Il faut se poser d'autres questions avant de partir dedans. En regardant vers l'avenir, vous, quels sont les chantiers ou innovations que vous anticipez là, dans l'investissement locatif ou la gestion immobilière dans les 3-5 premières années ?
Alors c'est difficile de se projeter sur 3 ou 5 ans parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a trop de changements. On a besoin aujourd'hui d'avoir une certaine stabilité pour pouvoir conseiller nos clients dans le temps. Ce qu'on sait, c'est que l'immobilier reste un fondamental qui est extraordinaire pour les clients. Ça permet aussi de faire travailler l'argent des autres, donc ça c'est plutôt positif. Ce qu'on voit quand même, c'est la poursuite de la digitalisation, ça c'est certain. Il y a à la fois, et ce salon Rennes, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, découvrir toutes les solutions d'intégration IA dont on est obligé de se poser la question de comment je l'intègre, mais je l'intègre à bon escient. Oui, moi, par exemple, mon chatbot sur maslo.mo, si mes conseillers ne sont pas en ligne, c'est marqué « Bonjour, je suis l'assistant virtuel, les conseillers sont en ligne », on vous rappelle. En fait, il y a à la fois le bon et le pas bon. C'est à la fois toutes les promesses dont on va répondre à la place de l'humain. Et dès que tu te fais gauler parce que tu sens que c'est pas un humain, c'est catastrophique dans la relation client. Donc il y a à la fois le bon positionnement sur là, comment on l'apporte, comment on arrive à plus personnaliser, comment on arrive à relancer des prospects par rapport à des produits qui collent plus de cases et qu'on gagne du temps là-dessus. Donc ça c'est vrai dans la relation client. Gagner du temps pour les collaborateurs pour faire les propositions commerciales. Donc l'intelligence artificielle, c'est comment on l'intègre aujourd'hui et comment on apporte le bon niveau d'information, qu'on apporte la preuve aujourd'hui aux clients. Ça, c'est vraiment une tendance de fond. Et ensuite, comment on facilite tout ce qui inquiète les gens, que ce soit sur le financement, la gestion locative, la gestion des sinistres. Comment on enlève en fait toutes les barrières le plus facilement possible et qu'ils aient accès simplement à leurs informations, leurs investissements, le suivi de leurs investissements. Ça, ce chemin-là, un peu comme un portefeuille finalement. Ouais. C'est ça l'idée, quoi.
Un dernier mot pour conclure peut-être à nos auditeurs, un conseil que vous voudriez leur donner, investissez.
Ouais, c'est toujours le bon moment d'investir. Aujourd'hui, c'est le mauvais moment pour vendre. C'est donc le bon moment pour acheter. Il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, les prix ont baissé. Ouais. Celui qui a le pouvoir, c'est l'acquéreur. Que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, les marchés peuvent être bloqués. Vous avez le choix. Vous pouvez visiter 10 appartements cet après-midi et prendre le temps de faire votre proposition et de choisir le meilleur projet. Il y a 3-4 ans, il fallait visiter à 9h30 et faire une offre à 11h sans conditions suspensives de prêt. Vous n'avez pas le choix. Et il y en a qui ont réussi, d'autres qui se sont plantés. Là, vous avez le choix. Donc, l'acquéreur a le pouvoir. Le marché est baissier. Donc, c'est le mauvais moment pour vendre et le bon moment pour acheter.
Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Jus, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet échange riche et clair. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de Salon Rent.
Vous aussi.
Merci beaucoup. Et puis à tous ceux qui veulent écouter ce podcast, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio Imo et même sur les agrégateurs de podcasts. Donc plus aucune excuse pour ne pas nous écouter.
Le Salon Rent.
Les 5 et 6 novembre 2025.
À Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement,
Nexity,
Adaptimo
et Procivis.
Sur Radio Imo.